10 jours que des milliers de Turcs sont dans les rues du pays. Ankara, Istanbul, où la place Taksim est toujours occupée, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, ferme, appelle toujours à l'arrêt immédiat de la contestation. Erdogan, que les manifestants appellent à la démission, c'est la principale revendication face au gouvernement islamo-conservateur élu en 2002. Mais ce n'est pas la seule dans une contestation qui n'est pas identitaire, insiste Samim Akgunul, chercheur au CNRS et professeur à l'Université de Strasbourg, spécialiste de la Turquie.
Différentes préoccupations liées à la vie quotidienne des gens et la répression policière a fait qu'il y a eu une montée de réactions de la part de différentes couches populaires. Parmi les manifestants, il y en a ceux qui sont sentis visés depuis des années, mais surtout depuis quelques mois, dans une sorte de résistance à l'islamisation, les décisions sur l'alcool, les décisions sur des constructions de mosquées, ce genre de choses. Mais ça n'est qu'une partie. Il y en a d'autres qui manifestent pour des questions environnementales. Il y en a d'autres qui manifestent parce qu'ils pensent que le projet de paix entre l'AKP et les Kurdes, le PKK, nuit à la Turquie. D'autres pensent que ça ne va pas assez loin.
Le Premier ministre turc taxé d'autoritarisme, mais pour le vicaire apostolique à Istanbul, Monseigneur Pelâtre, le plus inquiétant, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'alternative possible.
L'opposition actuellement est très faible, mais je pense que les partisans du Premier ministre actuel voudraient le ramener un peu à la raison. Ils le trouvent un petit peu trop catégorique, un peu trop arrogant. Le président de la République est de son parti, et lui, il appelle au calme. Tandis que le Premier ministre, lui, veut montrer son « voilà, on ne cédera pas ». Enfin voilà, nous sommes dans un rapport de force actuellement. On pense tous que ces événements peuvent être une leçon, qu'il arrête cette arrogance un peu de tout décider, et donc qu'il soit un peu plus démocrate. Certains ont dit « oui, il a été élu démocratiquement, mais lui-même n'est pas démocrate, voilà ».
Quel programme, quelle promesse ? Nous nous sommes intéressés cette semaine au candidat à la présidentielle iranienne du 14 juin. Il y a dans cette campagne un dossier qui reste piloté par le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, le nucléaire. Quelle marge de manœuvre ont les candidats ? Thierry Coville est chercheur à l'Institut des Relations internationales et stratégiques à Paris.
Il est clair que le président qui représentera un courant politique important aura son mot à dire. Donc il y aura des discussions, le président aura sa part. Mais au bout du compte, c'est Ali Khamenei qui décide, effectivement. Mais il tient compte quand même il essaye d'avoir un consensus entre les différents partis en Iran. Il y a quand même une admission de la part des dirigeants iraniens que les sanctions ont un coût économique pour l'Iran, mais ça ne diminue pas la détermination de l'Iran à poursuivre le programme d'enrichissement iranien. Et il faut reconnaître, bon, même si les informations sont limitées, il y a quand même un relatif consensus dans le régime et même finalement au sein de la population, parce que quelque part, il y a aussi une question de nationalisme et de refus de céder devant les Occidentaux dans ce dossier.
Également face à ces candidats iraniens, la crise économique aggravée par les sanctions des pays occidentaux pour que le pays cesse son présumé programme nucléaire. Clément Terme, docteur en relations internationales, membre associé au Centre d'analyse et d'intervention sociologique à l'EHESS à Paris.
Si les sanctions menacent la pérennité du régime et que le guide suprême pense que la survie de la République islamique est en jeu, il sera peut-être amené à ce moment-là à faire un compromis sur la question nucléaire. Mais compte tenu du fait qu'il y a une expérience des sanctions, une capacité à contourner les sanctions, avec notamment une utilisation des pays voisins pour éviter les effets négatifs des sanctions imposées notamment par l'Occident et les États-Unis en particulier. L'Iran est un pays pétrolier qui exporte encore du pétrole, même s'il y a une chute des revenus pétroliers. Il a, à mon sens, encore une démarche de manœuvre et la capacité à absorber le choc des sanctions.
Tout comme le nucléaire iranien, une autre question inquiète la communauté internationale, les armes chimiques en Syrie. Après la France, le Royaume-Uni a affirmé cette semaine avoir des preuves de l'utilisation de gaz sarin dans le pays. Mais de nombreuses questions restent encore en suspens, comme l'explique Patrice Bouvray, directeur de l'Observatoire des armements à Lyon.
Est-ce qu'ils les ont utilisés purs? Est-ce qu'ils ont fait des mélanges? Parce que vous savez que tout conflit est aussi l'occasion de tester de nouveaux produits, de nouvelles armes. Est-ce qu'elles ont été utilisées avec des sous-munitions pour les répandre sur les populations? Elles contribuent, aux côtés des autres armes utilisées, à affaiblir les positions des rebelles, à créer la peur parmi les populations. Il y a encore un certain nombre de questions de ce type-là, mais qui ne remettent pas du tout en cause sur le fait qu'ils ont utilisé des produits qui sont interdits au niveau international.
L'actualité française a été marquée cette semaine par la mort d'un jeune militant d'extrême gauche, mercredi à Paris, lors d'une bagarre avec des skinheads. Le gouvernement français, dans le même temps, a annoncé vouloir dissoudre des groupuscules d'extrême droite. Jean-Yves Camus est politologue et chercheur à l'IRIS.
Ces groupuscules qui se situent à la droite du Front National, tant par l'idéologie que par les méthodes, sont effectivement nombreux. Parce que le Front National occupe la totalité du créneau politique qui existe en France pour une droite populiste, xénophobe, qui souhaite parvenir au pouvoir par le biais des élections, donc par la voie démocratique, et que le nouveau cours impulsé par Marine Le Pen depuis 2011 génère, j'allais dire depuis le jour de son élection, un mécontentement chez les plus radicaux qui les pousse à quitter le Front National. Certains en ont été exclus d'ailleurs.